Bonsoir, Michel Murator. Nous nous retrouvons pour un alter regard. Ce soir, je vous propose de parler d'arbres. Alors, on parle de plus en plus des arbres, mais a-t-on pris conscience de l'importance des arbres dans nos vies, ou est-ce seulement une mode ? L'arbre lutte contre le réchauffement climatique, lutte contre pour les îlots de chaleur, la pollution, préserve la biodiversité. Les arbres serviraient tout ça. Les habitants sont de plus en plus sensibles à la nature. En fait, on en parle plus. Mais est-ce un signe d'intérêt pour la nature ? Est-ce vraiment un signe d'intérêt pour la nature ? Et les habitants réclament la nature en ville. Mais les jardins qui sont actuellement aménagés répondent-ils à cette demande ? Donc avec mon invité, je vous propose de voir la place de l'arbre dans nos vies. Mais quels arbres ? Où ? Et on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où. Bonsoir Caroline Molly. Molly, je ne sais pas comment on dit au fait.
Molly.
Molly, ça marche. Donc, merci de vous présenter.
Merci Michel, merci de m'avoir invité. Merci Agora Côte d'Azur. Je suis très contente d'être là et de parler de mon sujet de passion. Donc, je suis Caroline Molly, je suis architecte paysagiste de formation. Et j'ai travaillé pendant 10 ans, 15 ans même, sur un programme de préservation et de sauvegarde de l'arbre d'ornement, l'arbre d'ornement, qui est en fait l'arbre urbain, qui est l'arbre qui sert à rien en termes économiques, mais qui est notre arbre de compagnie, comme je l'appelle, c'est-à-dire celui qui nous tient compagnie, qui nous accompagne dans notre quotidien, dans nos lieux de plaisir, de loisirs, et qui est absolument important pour nous. Donc j'ai eu la chance de travailler sur ce programme, de monter les premières formations de délagueurs grimpeurs, parce que quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait aucune compétence en termes d'arboriculture, c'est-à-dire qu'on ne savait pas, on ne savait plus en fait comment soigner les arbres, comment les gérer, beaucoup de fausses idées circulaient à cette époque. Et puis ensuite, je me suis intéressée à partir de l'élagage à l'arboriculture urbaine. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir faire travailler un certain nombre de chercheurs, à partir de quoi j'ai fait un livre qui s'appelle « L'urbanisme végétal » et qui est plus un regard de paysagiste ou d'architecte ou d'urbaniste sur l'espace urbain et le dialogue entre les arbres et l'architecture pour créer des espaces extérieurs agréable, beau et confortable.
Oui, donc on voit à partir de l'architecte ce cheminement jusqu'à l'arbre qui est effectivement l'arbre de notre quotidien. J'aime bien cette expression parce que en fait c'est celui qu'on croise partout et sur lequel on s'interroge plus du tout. Et en fait, il y a matière à s'interroger. Donc le lien entre votre formation, votre parcours et maintenant l'arbre lui-même. Disons. Alors, est-ce qu'on peut commencer par quelques généralités sur l'arbre ? Parce qu'on parle des arbres comme ça. En fait, si je vous dis, mais à quoi ça sert un arbre ? On peut le prendre comme ça.
Alors, ce que je trouve extrêmement intéressant, et notamment de la part des plus grands scientifiques, c'est que une personnalité comme Francis Allais dit, un arbre, ça sert à créer du merveilleux. Et je pense que c'est cet attachement profond, fondamental à un être vivant qui nous dépasse complètement en termes de temps, de hauteur, de grandeur, qui est indicible et qui est en même temps un moteur très fort. Et je me réfère à un film de Raymond Depardon qu'il avait fait pour l'exposition à la Fondation Cartier. Il avait fait un film qu'il avait appelé Nos arbres. Et en fait, si vous vous interrogez les uns et les autres, si vous vous interrogez, nous avons tous un arbre de référence, un arbre secret, caché, qui est associé dans notre mémoire et dans notre inconscient à des moments en général très agréables. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien émotionnel très fort, de beauté, et je pense que la dimension du vivant et cette dimension qui nous dépasse aussi crée un lien très important. Donc, il faut pas, il faut vraiment avoir conscience de cette, de ce lien émotionnel. Et ensuite, à quoi servent les arbres? Bon, ce que j'appelle les arbres de compagnie, comme je vous disais, à quoi servent-ils? Bon, à nous faire plaisir et à créer des lieux d'agrément dans la ville et à créer une ville belle. C'est une vieille histoire, en fait, là, en France et dans les autres villes. Le lien des habitants avec leurs arbres et les liens de l'architecture avec le patrimoine arboré, ça existe depuis au moins 300, 400 ans, au moins, d'après les études historiques que j'ai pu faire. Et depuis le XVIe siècle, on aime planter des arbres, on aime planter des promenades, et sous ces promenades, on joue aux mailles, par exemple. Et pendant ces quatre siècles d'histoire végétale urbaine, il s'avère que dès qu'une municipalité touche à son patrimoine arboré, les habitants s'accrochent aux branches, comme aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas l'attrait pour les arbres ne date pas d'aujourd'hui, c'est une très vieille histoire. On est aujourd'hui dans une continuité, dans une lignée, avec en plus maintenant la question de la surchauffe et de l'intérêt que l'on voit aux arbres pour apporter une solution aux épisodes de chaleur urbaine qui vont se multiplier.
Alors si je comprends bien, on a construit, pour construire les villes, on a détruit des arbres, des forêts et des arbres, mais on a replanté des arbres à l'intérieur de la ville, et c'est un peu ça qui a été fait, et les arbres qu'on retrouve maintenant, les arbres d'allées, dans les allées ou quoi, datent de l'époque, un peu de cette époque-là, cette réflexion de dire il faut rajouter des arbres maintenant qu'on en a enlevé.
C'est peut-être pas tout à fait le défrichement forestier qui explique l'implantation des villes. Les villes sont très souvent des places fortes sur des points hauts ou des lieux stratégiques avec autour de la ville tout l'entourage vivrier, c'est-à-dire tous les jardins potagers, etc. Bon, donc c'est de longue date. Et aujourd'hui, quand on crée une ville nouvelle, alors est-ce que c'est au détriment d'une forêt? C'est à voir. C'est pas toujours le cas. Et je prends l'exemple de la Grande Motte, qui a été construite comme une ville nouvelle et en même temps qu'a été plantée une forêt. La forêt a été plantée presque avant que vienne la ville. Donc c'était une démarche très intéressante.
L'architecte a voulu justement faire l'urbaniste, puisque là on a vraiment fait de l'urbanisme, a voulu effectivement planter, c'est Pompidou, c'est ça, il s'appelait, il me semble. Il a voulu effectivement planter, on a planté les arbres avant de monter les... parce qu'il n'y avait rien, c'est du marécage quoi. C'est plutôt rare, parce que si on prend ici Sophia Antipolis, on a détruit de la forêt pour construire d'états pour urbaniser quoi.
Alors, est-ce qu'on a détruit la forêt? Moi, j'ai le souvenir d'avoir été intéressée de loin sur la création de Sophia Antipolis. Et il y avait à l'époque des architectes paysagistes qui travaillaient sur le tracé de la ville. Je pense que l'idéal, c'est de faire avec, c'est-à-dire garder au maximum la végétation existante. C'est aussi un mantra qu'il faudrait appliquer aujourd'hui, garder ce qui existe le plus possible, et notamment les grands et beaux arbres, parce que c'est quand même un siècle ou deux siècles pour reconstruire, pour donner à un arbre son volume d'adulte. Et on peut, mais c'est assez difficile, on peut faire des villes en maintenant les arbres, en négociant, si je puis dire, ou en gardant les arbres en place. Par contre, je prends l'exemple des promenades de Paris de Napoléon III. C'est un grand projet qui a fait le tour du monde, qui a fait de Paris une des villes les plus belles, parce qu'avec ses grandes avenues plantées. Le plan d'urbanisme, le plan des promenades a été fait, ce qui est assez intéressant, par un ingénieur forestier. C'était pas un ingénieur des ponts. Et il avait la charge, en même temps que Paris se modernisait, c'est-à-dire qu'on ouvrait des grandes avenues, il avait la charge de planter ces avenues en même temps que de refaire tout le réseau d'assainissement. C'est-à-dire que là, c'était un combiné entre les architectes, les urbanistes, les forestiers, paysagistes, planteurs et les services chargés des réseaux pour créé la ville qu'on connaît aujourd'hui et qui fait encore, bon, on peut en discuter, mais qui est encore extrêmement appréciée des Parisiens et des étrangers comme une ville verte et comme une ville plantée.
D'accord. Et alors, les arbres qui sont plantés, on a des arbres qui sont là dans nos régions, sont pas des arbres. Enfin, on dit il y a un problème, c'est pas la même nature d'arbres. On a beaucoup importé d'arbres et beaucoup transplanté aussi. Vous dites que c'est, je croisais l'autre jour encore un camion avec des énormes oliviers. C'est pas naturel, c'est pas normal. L'arbre, on fait subir à l'arbre quelque chose qui est pas dans sa nature. Et on a des arbres qui sont pas, quand on regarde les palmiers, c'est pas des arbres d'ici.
Alors,
quand on remplace, oui. Est-ce qu'on remplace complètement et est-ce que ça, la nature, elle s'adapte, l'arbre s'adapte à tout ça?
Il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs réponses. Vous posez la question là, mais peut-être qu'on en parlera à la fin de l'émission, du choix des espèces et de l'implantation d'espèces exotiques dans notre espace urbain. On verra ça peut-être tout à l'heure. Ensuite, il y a la question de la transplantation des gros sujets. Et il est vrai que transplanter un gros sujet, c'est transplanter un arbre dont l'espérance de vie est diminuée de 75%. Donc au bout de 10, 20, ça dépend de sa grosseur, évidemment. Au bout de 5, 10 ou 15 ans, on verra l'arbre dépérir ou au mieux, végéter, c'est-à-dire ne pas avoir de croissance. Pourquoi ? Parce que quand on prend des arbres adultes avec des grosses racines et des grosses branches, pour le transplanter, on est obligé de couper les grosses racines et de couper les grosses branches, donc une mutilation totale, un traumatisme, on appelle ça un traumatisme pour l'arbre, qui aura extrêmement de difficultés à se remettre de ce traumatisme. Et ensuite, ça veut dire aussi, dans le lieu de transplantation, tout un système électronique, électrique, de tests et d'arrosage un peu compliqué, et on s'imagine qu'aujourd'hui, dans la perspective aussi qui nous attend, est-ce que c'est bien quand même d'avoir du vivant dépendant des technologies comme aujourd'hui, une panne d'électricité, une panne d'eau, qu'est-ce qui se passe? Donc la sagesse d'autrefois dans les plantations urbaines, c'était de planter, et aujourd'hui aussi, c'était de planter des arbres jeunes. Les plus jeunes possibles, certains vous diront de les semer. Bon, on va pas aller jusque-là quand même en pleine ville, mais de les planter jeunes, c'est-à-dire des jeunes tiges qui ont 3-4 mètres, à racines nues, c'est-à-dire qu'on ne les met pas en motte, et on prépare un magnifique trou avec amour, on met de la bonne terre, on décompacte bien les bords. On arrose pendant 3 ans, on le taille de façon à ce qu'il ait une belle couronne, et puis au bout de 3 ans, on lui fout la paix. Et 10 ans après, c'est ce que j'ai montré dans mon livre, 10 ans après, on a des arbres adultes qui prennent une place extraordinaire dans l'espace public. Ils sont déjà là, c'est-à-dire qu'il faut juste 10 ans, mais à condition que ces arbres soient jeunes et bien plantés, dans des très bonnes conditions.
D'accord. Alors, pour l'existant, est-ce qu'il y a comment on préserve l'existant? Parce que il y a des arbres qui sont protégés. On dit toujours que l'olivier, il est protégé. On dit que le chêne vert, il est protégé. Est-ce qu'il y a quelque part une loi, entre guillemets, qui protège?
Les arbres ne sont pas protégés, grosso modo, en général. Malheureusement, par rapport aux autres pays d'Europe, on est les derniers de la classe en termes de protection des arbres. Les règlements et les lois qui pourraient protéger sont dispersés dans une quinzaine de codes différents, avec une cinquantaine ou plus d'articles différents, donc c'est la jungle. Et la protection, il y a la possibilité de classer des arbres en monument historique, mais ça a été arrêté après la guerre. Il y a un arbre qui a été récemment classé en monument historique, alors là, il est intouchable. Et l'argument de nos interlocuteurs, c'est de dire « Ah, mais vous comprenez, un arbre, ça vit, ça va mourir, etc. Donc, on ne peut pas protéger quelque chose qui est amené à mourir un jour. » Bon. Maintenant, il y a quelques dispositions dans les règlements d'urbanisme qu'on peut appliquer dans les PLUI, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, ou pas.
Ils ne sont pas encore tous intercommunaux.
Intercommunaux ou pas.
Ou pas, oui.
On peut demander à ce que les arbres soient, dans un, soient protégés au titre de, des espaces boisés classés, EBC. Donc il faut délimiter une surface, et délimiter une surface qui prenne en compte la longueur des racines. Si vous délimitez une surface autour du tronc, bon, vous coupez autour, et évidemment, il n'y a plus rien après. Donc, délimiter une surface qui soit suffisamment grande pour permettre à l'arbre de se développer, de ne pas être traumatisé par des changements, des constructions, des routes, etc. Donc ça, c'est une possibilité. C'est long, il faut faire des démarches, il faut se faire écouter, il faut que ce soit appliqué. Oui, c'est ça. Et ensuite, il faut que ce soit appliqué. C'est-à-dire que il faut que les services des villes aient des personnels qui puissent vérifier que la loi est respectée. Et c'est un petit peu le problème.
Surtout quand c'est la ville qui demande de déclasser un espace boisé classé pour faire une route, par exemple.
Je vous le laisse dire.
Voilà. On a eu ça récemment sur Antibes. J'ai voté contre. Et dans les sites patrimoniaux remarquables, les arbres sont inventoriés aussi.
Les arbres doivent faire leur abattage, doivent faire l'objet d'une demande et d'un acquiescement de l'architecte des bâtiments de France, je crois. Bon, ouais. Après, est-ce que les procédures sont faites correctement? Est-ce que c'est appliqué? Là aussi, si vous voulez, c'est un peu le problème qu'on rencontre en France, à mon avis, d'avoir des règles et de ne pas avoir suffisamment de personnel pour les suivre et pour les appliquer. Et il y a récemment un article, une loi qui a été votée pour protéger les alignements d'arbres.
Et les a enlevés pendant longtemps, puisqu'ils venaient attaquer les voitures qui roulaient sur la route.
Et on continue à les enlever. Et il y a récemment un président de département qui a trouvé que, évidemment, les arbres étaient encore plus, se précipitaient encore plus que d'habitude contre les voitures. Donc il a décidé d'abattre les arbres, sans même avoir qui que ce soit autour de lui qui lui dise mais attendez, monsieur le président, vous n'avez pas le droit de faire ça. Bon. Alors, heureusement, les associations sont là, elles ne sont pas toujours très informées. Et c'est pour ça qu'il faut les informer. Il faut que la loi soit respectée au minimum, quand même. Voilà, donc il y a ça. Il n'y a pas beaucoup de dispositions de protection, malheureusement. Alors, il y a des associations, une association qui s'appelle l'association Arbre, en majuscule, qui se donne beaucoup de mal pour classer des arbres. Alors, c'est un classement privé, c'est pas un classement public, c'est pas un classement culture, agriculture et tout ça. Mais quand même, le fait d'avoir été reconnu arbre remarquable par cette association, maintenant, limite un peu les ferveurs et les ardeurs des uns et des autres pour couper les racines ou pour s'installer à la place de l'arbre. Bon, disons que c'est une protection plus à caractère émotionnel, social que juridique. Oui.
Thank you.
Michel Murator, donc nous nous retrouvons pour un alter regard avec Caroline Mollier qui va nous parler d'arbres. Alors, est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez choisi ce morceau, puisque c'est Cécilia Bartoli qui parle d'arbres?
Ah, c'est un morceau qui m'a absolument sidérée quand je l'ai entendu la première fois. J'ai entendu très récemment, incidemment, dans ma voiture. Je ne cherchais pas spécialement, parce que c'est un hommage, c'est un éloge à l'arbre qui, dans l'opéra de Handel, est fait par un roi perse, c'est-à-dire, bon, ça remonterait à 4000 ans, pour un platane. Parce que le platane, il faut le savoir, le platane vient d'Orient et d'Occident, il n'est pas du tout natif de nos régions. Et c'est un hommage à son ombre. Donc, platane, ton ombre est tellement belle. Je prie pour que ta couronne et tes branches puissent s'élever indéfiniment dans le ciel et pour que tes racines puissent s'enfoncer dans le sol. C'est très court, mais c'est d'une beauté absolument inouïe. Et c'est l'ouverture de cet opéra. Oui.
Et donc ça nous renvoie à l'aspect émotionnel dont nous parlions tout à l'heure en début d'émission.
Ça nous renvoie à la beauté et à l'ombre des arbres.
Et à l'ombre des arbres. Alors vous dites que les arbres, ils doivent être grands, beaux et sains.
Oui.
Et qu'il leur faut de l'air, de la terre et du temps. Donc, est-ce qu'on n'a pas toujours, l'air plus ou moins pollué? Moi, quand on dit les arbres d'alignement au bord des routes, ils prennent quand même toute la pollution des voitures. La terre, elle est plus ou moins en bon état. Et le temps, est-ce que, justement, à mon avis, c'est ce qu'on ne prend pas maintenant, le temps. Donc, comment on fait pour arriver à faire passer, à faire admettre qu'il leur faut du temps, de l'air, du temps, de la bonne terre et du temps?
Oui. Alors, ce qui est assez surprenant quand on voit les projets qui sortent des cabinets d'études ou des mairies, c'est que l'arbre est dessiné sur les plans ou implanté sur les maquettes dans une forme figée, qui est une forme miniaturisée en général, et qu'on ne fait pas cette anticipation du développement de la couronne qui va permettre d'avoir de très beaux arbres. Et donc, pour moi, il est important, enfin, il est vraiment primordial de calculer, enfin, d'implanter les arbres dans la ville en fonction de leur couronne. On appelle ça des plans canopés, et non pas en fonction du nombre. C'est-à-dire un arbre bien planté au bon endroit, comme ils le font en Angleterre, par exemple. Ils sont beaucoup moins... ils ont une approche de l'arbre beaucoup plus anglaise.
Bon sens anglais. La nature, ouais. Peut-être.
Et donc, à Londres, on voit des arbres magnifiques à un coin de rue. Et voilà, ils font le lieu.
Ils prennent le temps.
Ils prennent le temps. Oui. Mais là, on parle d'espace. Donc, très, très important d'anticiper sur la croissance de l'arbre qui, lorsqu'il est bien planté, encore une fois, se développe assez rapidement et lui prévoir tout son espace de développement. Parce que c'est ça qui va avoir une incidence positive sur la baisse de température urbaine. C'est quand on a une très belle couronne, bien aérée, assez lumineuse, qui laisse passer l'air, mais qui laisse pas passer le soleil, qu'on va avoir le maximum d'effet. Alors, pour ça, je dirais que je vais me mettre quelques personnes à dos. Il faut arrêter de se faire tyranniser par l'obligation de l'alignement. Soi-disant parce que c'est français et parce que c'est facile à mon avis de tirer un alignement sur un plan, on plante les arbres en ordre ordonné le long des routes, alors que je crois qu'il faudrait, il serait temps maintenant de calculer, de voir où sont les arbres les mieux placés au niveau de l'air et de la terre, c'est-à-dire où est-ce qu'on a de la terre pour que les racines se développent et permettre d'avoir ces beaux monuments, futurs monuments végétaux. Voilà. Donc de l'air, de la terre, ça veut dire aussi qu'il faut savoir travailler avec les services, tous les services ensemble, les services de voirie pour qu'ils nous disent où sont les réseaux, ce qu'ils vont faire comme réseau et qu'ils ne viennent pas mettre leur réseau après qu'on ait planté les arbres, enfin qu'il y ait de la coordination dans les services. Et le temps, alors le temps, c'est la marque de fabrique. Le manque de temps, c'est la marque de fabrique aujourd'hui. On veut tout de suite. Mm-hmm. On veut des grands arbres, donc transplantation, grand sujet, on en a parlé tout à l'heure. On veut des grands arbres tout de suite, à force de déplacements, de longs trajets, de traumatismes et tout ça. Et alors qu'il faut planter jeune et donner aux arbres la possibilité de se développer. Donc le temps, c'est pas si long que ça. Et il y a des très belles expériences qui sont faites. J'ai une collègue qui a fait planter des pins dans un parc périurbain, là, avec l'association des écoles, des scolaires, qui ont vu la forêt grandir à partir de la terre vierge, à partir de rien du tout. Donc c'est aussi une manière... il faut que ce soit accompagné d'une pédagogie auprès des habitants et auprès des écoles pour réancrer les uns et les autres déjà dans le sol, qu'on ne vive plus hors sol, et dans le temps, qu'on ne vive plus hors temps. C'est-à-dire, c'est un exemple sous les yeux de cette accroche à la terre dont on a besoin tellement aujourd'hui.
Donc, où on met l'arbre, bien sûr, avec en prenant en compte donc quel est l'espace, oui, de l'espace sous terre, oui, et puis de l'espace en l'air aussi. Oui. Donc, c'est ces éléments qu'il faut concilier, et c'est pas évident dans les projets d'urbanisme qu'on voit.
Non, c'est très compliqué, et ça va aussi à l'encontre des affichages en termes de quantité d'arbres. Certaines municipalités disent je vais planter 1000 arbres, 2000 arbres, 10 000 arbres, 100 000 arbres, 1 million, etc. La course au nombre ne s'arrête pas. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut vraiment envisager le développement du patrimoine naturel et du patrimoine arboré, comme je vous ai dit, en termes de canopée. C'est-à-dire, quels espaces, à moyen terme, quels espaces sont couverts, quels espaces vont être couverts pour les générations qui nous suivent. Et je rajouterai alors un domaine, je parlerai d'un domaine qui m'est particulièrement cher, ou plutôt sur lequel je m'excite particulièrement, c'est le domaine de l'élagage. Parce que... c'est quand même très paradoxal, cette affaire. Pourquoi planter, et planter beaucoup, quand ensuite on va élaguer?
Mais oui, mais on nous dit que c'est une obligation. Donc c'est un peu, c'est ça que je voulais venir, justement, oui, on est dans cette contradiction. On a les obligations de débroussaillage, et en fait, qui s'impliquent aux arbres aussi. L'ONF dit il faut 3 mètres entre chaque bosquet, 15 mètres maximum. Donc automatiquement, on est amené à couper. Et puis, la vie de l'arbre, on est en pleine contradiction, là.
Oui. Sur la question du débroussaillage et des incendies, j'aurais du mal à vous répondre, parce qu'il y va aussi de la
sécurité,
de la vie des pompiers, de la bombe. Donc peut-être que c'est un peu excessif, mais je pense que c'est un peu excessif aussi parce qu'il y a eu des excès dans l'autre sens, et que on est obligé d'être hyper plus que prudent. Mais par contre, chez le particulier, dans mon jardin, dans votre jardin, dans le jardin du voisin, encore une fois, on l'espère, si l'arbre a été bien planté, il n'a pas besoin d'être coupé. Et s'il déborde sur la rue, il n'a pas d'obligation d'être coupé. L'obligation de couper à l'aplomb de la limite de propriété, qui relève du code civil, attention, c'est un assassinat en règle des arbres, parce que si on les coupe trop, ils crèvent. Et là encore, on est les seuls en France à avoir ce genre de règlement. Si personne ne vous demande rien, vous pouvez laisser déborder votre arbre sur la chaussée, sur la propriété voisine. Vous n'êtes pas obligé. Vous êtes obligé de couper que si vous avez un scrogneugneux qui vous dit « j'ai de l'ombre sur mon jardin, gna gna, etc. » Mais bon, l'ombre, quand même, on cherche après maintenant. Il faut savoir ce qu'on veut. J'ai des feuilles qui tombent, gna gna. Mais oui, mais vous voulez de l'ombre, vous voulez des arbres, et forcément les arbres perdent leurs feuilles.
On dit qu'il faut la couper à 2 mètres de la clôture du voisin.
Quand ils ont été plantés, il y a moins d'un certain nombre d'années. Mais à partir d'une certaine échéance, on n'a plus d'obligation. Il y a un peu d'embrouille là-dessus. Mais encore une fois, c'est le sacro-saint code civil français et le sacro-saint droit de la propriété qui donne aux voisins le droit de couper et de demander d'abattre des arbres. Alors, il y a quelques jurisprudences maintenant qui apparaissent et qui donnent le droit au propriétaire de l'arbre de ne pas le couper et même de ne pas l'élaguer parce qu'il y va de la survie de l'arbre.
Oui,
donc. Et donc, dans le contexte des nouvelles réglementations visant à protéger l'environnement, certains avocats sont arrivés à sauver des arbres par ce biais-là, ce qui est tout à fait remarquable et tout à fait nouveau.
Oui, là, mais il faut aller faire toute une procédure.
Les tribunaux sont encombrés de questions de mitoyenneté. Mon arbre, votre arbre, mon arbre, machin. Mmh. Enfin, voilà, c'est.
Alors, on dit, bon, donc l'air, l'espace, la terre, et en fait, quand vous dites il faut du temps, il faut aussi que les gens, tout le monde prenne conscience qu'on ne plante pas pour nous, on plante pour les générations futures, en fait.
Oui, et c'est assez curieux qu'on n'y pense pas davantage, parce que déjà, le patrimoine dont on dispose, ce n'est pas nous qui l'avons planté. C'est nos prédécesseurs, quand même. Donc, ce qu'on appelle la gestion en bon père de famille d'une forêt, c'est recevoir un patrimoine et le transmettre équivalent aux générations futures. Et c'est sûr qu'il faut avoir vraiment en tête cette perspective des générations futures. C'est eux qui vont morfler. C'est eux qui vont avoir du mal encore plus que nous.
Oui, parce que l'arbre protège quand même par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la pollution aussi. On dit qu'il absorbe quand même...
Alors, c'est
La pollution en ville.
L'ADEME, l'Agence de maîtrise de l'énergie, a fait faire des études sur les meilleures manières de rafraîchir la ville. Et leur verdict est sans appel, c'est les arbres et l'ombre des arbres qui sont les meilleurs rafraîchisseurs, les meilleurs climatiseurs. Alors, bien sûr, il y a ces sentiments de fraîcheur quand on est à l'ombre. Il y a aussi ce sentiment de légèreté, d'humidité, de légère humidité. Et puis, il y a une partie aussi, absorption des particules et absorption de la pollution. Ça n'absorbe pas tout, mais quand même, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien.
Accord à côté des yeux.
Michel Murator. Donc, avec Caroline, nous parlons d'arbres. Alors, d'abord, oui, pourquoi vous avez choisi ce morceau? C'est pas un morceau très connu et c'est intéressant de dire pourquoi et qu'est-ce qu'il évoque.
Parce que j'ai tapé arbre chanson et je suis tombée sur cet air de chorale d'enfant qui m'a subjuguée. J'ai été complètement enchantée par la fraîcheur de cette chorale et par la pertinence, parce que, comme vous dites, on va parler du futur maintenant, et ce sont les enfants qui se plaignent qu'on ait abattu des arbres et qui disent « laissez-les tranquilles, laissez-les vivre, on a besoin des arbres pour demain ». Et voilà, ça m'a semblé vraiment important justement pour entamer cette troisième partie de faire parler des enfants.
Voilà, tout à fait, puisqu'on a terminé en disant qu'on plante pour le futur. Et donc là, les enfants nous disent « ben oui, nous, on aura besoin des arbres ».
Voilà, simplement, alors... je voudrais dire le nom de la chorale qui s'appelle « Les Enfantastiques ». C'est une chorale d'enfants, « Les Enfantastiques ». Voilà, merci donc, aux Enfantastiques.
Oui, c'est bien pour les... Ça fait vraiment bien l'introduction avec notre troisième partie, oui, où on dit, bon... Alors, donc, on plante, mais la question, c'est maintenant... Alors, on dit qu'on en plante plus que ce qu'on arrache, mais on a vu pendant tout le temps, les deux parties précédentes, qu'en fait, ça n'a rien à voir, quoi. C'est l'arbre qui est vivant et qui compte, et si on en enlève un, parce que les maires nous disent, on en enlève un et on en a planté 10. Donc là, on est quand même pas... on respecte pas la nature de l'arbre.
C'est une affaire de diagnostic, en fait. Si l'arbre qu'on enlève a peu de chances de survie, il faut l'enlever. Et ça, c'est très difficile à faire passer. Il y a, du fait de tous les mauvais traitements qu'ont subi nos arbres dans les villes, il y a des arbres qui sont en très mauvais état et que ce n'est pas la peine de garder, malheureusement. Donc... on peut en enlever quelques-uns, mais entre un arbre sain, bien portant, qui justement développe son oxygène, qui fait son travail de climatiseur, et 10 petits arbres, bon, il n'y a pas de comparaison possible. Il faut garder l'arbre, et c'est très compliqué parce que les architectes, les routiers ne veulent pas. Ils ont l'habitude de couper un arbre, comme l'arbre ne dit rien et ne rouspète pas, bon, ils le coupent et puis ils font passer leur modernité. Mais non, maintenant il faut apprendre, il faut tenir à ce que les projets soient faits en fonction des arbres existants. Ce qui n'empêche pas d'en planter d'autres pour les générations futures, mais au maximum garder l'existant.
Alors moi je me souviens d'une commune qui mettait... un panneau sur chaque arbre qui devait être coupé, voilà, il est malade, il a ça, et donc du coup, en passant, en plus ça attire un petit panneau sur un arbre, et vis-à-vis donc, des citoyens, ça, on comprend pourquoi il faut le couper.
Alors, trop souvent la maladie a bon dos.
Ouais. D'accord. Ouais. En fait, si on l'affiche, on peut... enfin, moi j'ai tendance à penser que c'est vrai.
Oui, mais peut-être quelquefois c'est pas tout à fait vrai et il faut faire un diagnostic par des gens spécialisés qui sont des arboristes, qui ont des outils qui permettent de sonder l'arbre pour savoir s'il est creux à l'intérieur et s'il est dangereux, ou qui peuvent avoir un diagnostic sanitaire s'il y a des maladies, s'il y a des choses comme ça. Mais il faut que ce soit vraiment bien fait par des gens très compétents. Et après, comme je vous l'ai dit, bon, quelquefois il faut abattre pour... il est important parfois de moderniser, il est important parfois d'embellir, il est important de faire passer la fibre, le tramway, les choses comme ça. Donc c'est compliqué la ville aujourd'hui, parce qu'on a en plus les vélos, les trams, les piétons, tout un tas d'usages qui s'en mêlent. Et comme je disais, la fibre aussi, la fibre, on a besoin de la fibre, et pour faire passer la fibre, eh ben, il faut pas couper les racines. Mais comment on fait ? Très difficile.
Alors, on dit qu'on a perdu, plus combien de pourcentage, de forêts primaires, et que c'est la forêt primaire qui gardait plus, qui préservait le mieux toute la biodiversité. Donc là encore, comment on concilie préserver les forêts primaires, qui nous, dans nos régions, on peut dire que ça n'existe plus, quoi, et puis quand même urbaniser, garder, enfin, construire tout ce qui est besoin à la vie d'aujourd'hui.
Il faut s'adresser aux spécialistes.
Oui.
Il faut s'adresser aux spécialistes. Il faut que, je reviens là-dessus parce que c'est très important, que les services s'habituent à travailler ensemble et que les responsables et les spécialistes de l'arbre et de la nature en ville puissent être entendus et écoutés et par les maires et par les services techniques. C'est vraiment, c'est une des clés. Et non pas travailler chacun de son côté et que l'arbre passe en dernier quand on a oublié tout ça. Donc ça me semble important. Après, entre la forêt primaire et le centre-ville, et je dirais le centre-ville italien, où il n'y a plus un arbre, et on aime les villes italiennes quand même. Donc il y a tout un panel de milieu, du plus naturel de chez naturel au plus artificiel, dans lequel la nature doit trouver sa juste place. C'est un dialogue. Un dialogue, une sorte de pacte entre nature et culture, ou entre nature et végétal et minéral. Et je parlais tout à l'heure des promenades de Paris. Bon, on ne va pas s'amuser à mettre, à créer des forêts dans une ville. C'est un non-sens, à mon avis. Mais par contre, la ville peut accepter toute une variété de plantations, des arbres, des arbustes, des fleurs. Elle peut, au contraire, elle peut être agrémentée de jardins, de parcs, de bois, adaptée. Cela à la fréquentation, parce que dans une ville, il y a une telle fréquentation qu'une forêt ne résiste pas à la fréquentation, à la densité. Donc ça, c'est des choses qui relèvent de la compétence, des urbanistes et des paysagistes, et qui savent trouver le projet qui répondra aux demandes des habitants, tout en leur apportant de la beauté et de la fraîcheur.
Moi, je me souviens d'Alain Baraton, le jardinier de Versailles, oui, me disant « Mais tu n'auras jamais de forêt en ville, renonce !»
Ah ben oui, mais il a raison.
Voilà. Non,
mais...
Donc ça, c'est un message à faire passer
absolument, mais c'est stupide. C'est
alors,
une...
du ouais. coup, qu'est-ce qu'on... quelle variété ? Parce qu'on parle beaucoup d'arbres économes en eau, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le réchauffement climatique, c'est pas que simplement l'eau, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on plante, si on plante aujourd'hui, pour nos générations futures ?
Je reviendrai sur l'eau quand même, parce que c'est la condition pour que les arbres se développent.
Donc il faut des arbres qui résistent à la sécheresse.
Non, il faut désimperméabiliser les sols.
Voilà, ça c'est le plus important.
Oui, ça c'est tout à fait. Très très important. Ouais. Ensuite, planter des arbres qui résistent à la sécheresse aussi. Mais la meilleure manière d'anticiper, c'est vraiment d'assurer de l'humidité en sous-sol. Par tous les moyens possibles. Alors, les eaux de pluie, par exemple, qui sont renvoyées dans le tout à l'égout, pourraient très très bien être renvoyées dans les sols et alimenter les arbres. Et quand dans une ville, on voit un bel arbre et que tout est minéralisé autour, moi je me réjouis parce que je me dis, tiens, il a trouvé de l'eau. Et d'autres ne se réjouissent pas parce que probablement c'est dans les réseaux qu'il a trouvé de l'eau.
Oui, c'est voilà. Ça, les canalisations les sont fuites, crevées par voilà. Les racines des
non,
arbres.
Non, c'est parce qu'il y a des fuites que les arbres... Non. C'est pas de la faute des arbres toujours, d'accord. Mais... donc l'humidité. Et alors, il y a une autre chose, un autre aspect qui est assez épineux, si je puis dire aujourd'hui, c'est la question des espèces climatiques, des espèces naturelles, des espèces de l'environnement. Depuis toujours, depuis 4 siècles, depuis 5 siècles, on importe des essences dans nos villes et on est très content. Le platane n'a jamais existé en France. Hein. Il vient d'Orient, il vient d'Occident, mais il n'a jamais existé. Le marronnier, c'est pareil. Le tulipier, c'est pareil. Le magnolia, c'est pareil. C'est-à-dire que 85% de nos arbres urbains viennent d'ailleurs. Donc, pourquoi aujourd'hui cette mode de l'arbre d'ici ? Les arbres d'ici, climaciques, qu'on appelle climaciques, qui poussent dans la région, c'est pas sûr qu'ils s'adaptent à la ville, parce que ce sont des arbres de plein air, de campagne, et c'est pas sûr qu'ils s'adaptent au changement non plus, parce qu'ils vont souffrir. Ils vont souffrir des 3-4 degrés qui vont s'abattre sur nous. Donc anticiper, ça veut dire aller chercher peut-être dans d'autres pays Des arbres, c'est ce que fait à Antibes, le jardin botanique d'Antibes, l'INRA à Antibes, mais oui, de ne pas s'empêcher d'aller piocher dans ces collections des arbres, et même des beaux arbres avec des belles floraisons. Je pense aux jacarandas qui font notre bonheur sur la côte, là, mais plantons-les, ces jacarandas. Une réserve, c'est de planter de façon diversifiée, parce que si jamais on a une calamité qui s'abat sur un arbre, une maladie ou qu'un arbre s'avère non résistant, il y en aura d'autres. Donc éviter la monospécificité, l'espèce unique, planter varié, divers, et surtout ne pas s'empêcher d'aller chercher dans les palettes végétales du monde des espèces qui s'adapteront chez nous.
C'est vrai que maintenant, on parle d'arbres méditerranéens, mais en fait, on est déjà en retard en prenant...
L'arbre méditerranéen d'aujourd'hui, on le trouvera à Lyon demain, et pour nous, il nous faut des arbres presque du Sahel, enfin de l'Afrique du Nord, quoi.
Et ça, les urbanistes, enfin les paysagistes, là, ils sont formés à ça.
Parce que on a été pris de court par ce réchauffement climatique. L'étude des comportements des arbres, ça se fait sur des dizaines d'années. C'est très long. Alors, on a quand même la chance ici, sur la Côte d'Azur, d'avoir été occupés par les Anglais. Des Anglais qui avaient de très très belles propriétés, et comme tout Anglais, qui avaient de très très beaux jardins. Et dans ces jardins, il y a des espèces qui ont été cherchées. Et donc là, on aurait la possibilité d'observer sur un pas de temps d'un siècle ou d'un siècle et demi le comportement des espèces sur le climat d'aujourd'hui. Mais ça donne quand même des indications.
Donc là, on peut récupérer effectivement des variétés qui résisteront...
Il me semble que ça serait possible.
Ça serait possible.
Et intéressant, en plus.
Alors, vous parlez de désimperméabiliser. C'est vrai que, bon, moi, je suis toujours là-dessus. Il y a une grande... Alors, est-ce que c'est une mode des cours d'école ? On végétalise les cours d'école. Et les parents râlent parce que les enfants salissent avec la terre.
Alors là aussi, il faut savoir ce qu'on veut. On est dans le paradoxe. On peut plus planter des marronniers parce que les marrons qui tombent risquent de se les envoyer, de se faire mal ces chères petites têtes blondes. Et si on désimperméabilise et si on met du sol ou de la boue, je ne sais pas quoi, évidemment, c'est un peu. Enfin, certains parents n'aiment pas trop et certains enfants n'aiment pas trop. Mais je pense que ça serait pas mal que les enfants réapprennent à s'écorcher les genoux sur le sol. Sur le sol des cours d'école.
Il y a eu la pinède à Jean Lépin, qui est quand même une pinède. Moi, j'ai entendu des parents dire, mais les gamins se mettent du sable plein les pieds. Donc, comment on arrive à faire admettre que c'est normal? Moi, je réagissais en disant, mais c'est une pinède, c'est normal, non?
Mais alors, quand ils sont sur la plage, comment ils font?
C'est
autre chose.
Un gros problème. Et le problème des cours d'école, moi, j'y reviens parce que je trouve que, c'est intéressant de désimperméabiliser, effectivement. Quel est le projet? Parce qu'il ne suffit pas de dire, je désimperméabilise. Donc, effectivement, on ne va pas mettre des marronniers, il ne faut pas mettre des arbres qui perdent leurs feuilles parce qu'à l'automne, il y en a partout. Mais derrière, on doit quand même avoir une palette disponible d'arbres ou de végétaux, plus globalement, qui iraient bien dans une cour d'école. Il me semble qu'il n'y a pas de projet, qu'on dit, on enlève, on met trois trucs, et puis ça va bien, quoi.
Alors, je ne sais pas s'il y a des espèces qui sont adaptées à toutes les terreurs, les frayeurs, les inquiétudes, les peurs... des parents et des enfants, et surtout des parents. Je pense pas que ça existe. Je pense qu'il faut quand même là revenir au bon sens et dire, ou bien on plante et on accepte les inconvénients. Il y a les allergies, il y a aussi les piqûres d'insectes, il y a aussi tout ça. Donc, ou bien on accepte de revenir un petit peu dans le sol et de ne plus vivre hors sol. Voilà. Et de retrouver des cours d'école un peu comme autrefois, où c'est pas un peu crade, cracra. Où on tombe, où on s'envoie des marrons, et puis voilà, on n'en est pas mort. Et les arbres adaptés, est-ce que ça apportera grand-chose? Il n'y aura presque plus rien, finalement. S'il ne faut pas qu'ils perdent leurs feuilles, pas qu'ils perdent leurs fleurs, pas qu'ils perdent leurs feuilles, pas qu'ils perdent ci, qu'est-ce qui reste? Et là, j'aborderai peut-être la question des arbres fruitiers, qui nous est très souvent posée. Madame, est-ce qu'on peut planter, est-ce que ça serait bien de planter des arbres fruitiers en ville ? Et moi, je dis très compliqué en ville, parce que les arbres fruitiers demandent quand même du soin. Ils sont, c'est pas très bien qu'ils soient en pleine pollution dans les centres-villes, mais les cours d'école ou les jardins partagés ou les endroits comme ça, oui, parce que là on peut apprendre des choses à partir d'un cas concret, d'un arbre, d'un abricotier, d'un cerisier, et puis faire la récolte et les confitures. Enfin bon, il me semble que il faut y aller dans cet esprit. J'ai vu des cours d'école au Danemark magnifiques avec des pommiers, des cerisiers sensationnels, quoi. Et là, tout le monde s'y met, c'est sympa.
Alors, l'autre question, c'est comment on associe la population. Alors, je reprends l'exemple de toutes les communes maintenant, de dire on plante un arbre par enfant né. Mais bon, voilà, la question, c'est quel arbre, où on le plante, et aussi comment on associe, parce que quand je prends les exemples là de planter un arbre par enfant, à aucun moment on associe la famille en lui disant tiens, où vous verriez bien qu'on le plante. Donc ça me paraît important aussi dans toute cette végétalisation d'associer la population.
Là, ça me renvoie à des exemples anglais. Pas tellement de plantations, mais j'étais frappée en Angleterre par les bancs dans les parcs publics qui sont donnés par une famille qui sont donc
il y a le nom
du donateur, et je dirais que il serait peut-être possible, mais par rapport à un projet, quand un projet est fait, de dire voilà, dans ce nouveau parc, dans ce nouveau jardin, on va avoir tant d'arbres. Est-ce que les uns et les autres, vous êtes intéressés de financer, de payer un arbre qui sera planté dans l'espace public, qu'on verra ? L'autre exemple, le contre-exemple que j'ai, c'est les arbres qui sont plantés à la naissance sur le Mont Boron à Nice. J'y suis passée et j'y passe régulièrement, ils crèvent les uns après les autres. Ce sont des petits, des très très jeunes, des plants forestiers qui ont 50 cm, ils ne sont pas arrosés. Ils sont mangés par les bêtes, et donc 3 ans après, il n'y a plus rien, ça n'a pas de sens.
Non, il y a pire que ça. Ils ont donné un arbre à chaque enfant, même sans s'occuper de savoir s'il avait ne serait-ce qu'un balcon pour pouvoir le planter.
Oui, aussi, voilà. Oui.
Donc,
c'est pas sérieux.
Alors, vous parlez, tout à l'heure, nous parlions de la protection, et bon, vous préconisez une déclaration du droit des arbres. Donc, je voudrais terminer sur cette protection juridique que vous soutenez de déclaration des droits des arbres.
Oui, elle a été émise par l'association Arbre, dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce qui me semble assez fondamental, c'est qu'elle part du principe que l'arbre est un être vivant et qu'il a le droit au respect de sa vie, à ce qu'on respecte sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et ensuite, en découle ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire par rapport à cet être vivant qui fait partie, dont nous faisons partie de l'écosystème, parce qu'il faut bien voir que c'est nous qui avons besoin des arbres et c'est pas eux qui ont besoin de nous. Donc, cette déclaration des droits de l'arbre, c'est l'arbre a le droit d'exister, de vivre, et nous avons le devoir de l'entretenir à nos côtés.
Voilà, alors, quelques ressources. D'abord le site, à l'ombre des arbres. Le livre, à l'ombre des arbres, planter la ville pour demain. Il y en avait un précédent, donc que je n'ai pas noté, vous pouvez le citer, si vous en avez parlé.
Des arbres dans la ville.
Des arbres dans la ville. Ensuite, on peut parler de Francis Allais quand même, on l'a cité.
Oui, bien
donc
sûr.
Donc là, tout sur Internet, on trouve pléthore de... Il me semble qu'il a fait beaucoup quand même pour la connaissance de l'arbre et l'approche sentimentale dont vous parliez de l'arbre. Alors, les arbres de demain pour les villes méditerranéennes, ça c'est une association qui s'est créée, Arbre Méditerranée. La CASA, sorti une palette végétale avec des conseils pour les arbres. Vous avez le CAUE qui donne des conseils aussi pour les arbres. Le CAUE 77. Hein. On explique que le CAUE, c'est les architectes. Donc l'association Arbres.
Oui.
Et puis il y a un film, Le Temps des Forêts. Donc on peut aussi aller voir. Et là, on est sur la journée de la Terre. Il y a eu, maintenant, il y a la journée de la Terre. Voilà. Merci Caroline. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un autre Alter Regard.